Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Une émission particulière ce midi, puisqu'elle va prendre sa place aux côtés d'autres de la chaîne dans un podcast exceptionnel dédié à Marcel Proust, dont on célébrera le centenaire de la mort tout au long de l'année 2022. De fait, les références à l'art de la bonne chère, cuisine, repas, table, plats, ingrédients, menus surabondent dans son grand œuvre à la recherche du temps perdu. Il est donc logique que les bonnes choses s'emparent de ce sujet à leur façon, d'autant que, comme le rappelle notre invité, dans sa préface à la physiologie du goût de Brillat-Savarin en 1879, Charles Moncelet souligne que la gastronomie est faite surtout de temps perdu.
Françoise ajoutait, selon les travaux des champs et des vergers, le fruit de la marée, les hasards du commerce, les politesses des voisins et son propre génie. Si bien que notre menu, comme ces quatre feuilles qu'on sculptait au XIIIe siècle au portail des cathédrales, reflétait un peu le rythme des saisons et les épisodes de la vie. Une barbue parce que la marchande lui en avait garanti la fraîcheur, une dinde parce qu'elle en avait vu une belle au marché de Roussainville-le-Pin, des cardons à la moelle parce qu'elle ne nous en avait pas encore fait de cette manière-là, un gigot rôti parce que le grand air creuse et qu'il avait bien le temps de descendre d'ici 7 heures. Des épinards pour changer, des abricots parce que c'était encore une rareté, des groseilles parce que dans 15 jours il n'y en aurait plus, des framboises que Monsieur Swann avait apportées exprès, du fromage à la crème parce que j'aimais bien autrefois, un gâteau aux amandes parce qu'elle l'avait commandé la veille, une brioche parce que c'était notre tour de l'offrir.
Extrait du côté de chez Swann, chapitre 2, à la recherche du temps perdu, Marcel Proust.
Impossible de parler de la gastronomie chez Proust sans recevoir Anne Borel, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour madame.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes agrégée de lettres, vous êtes surtout une très grande amoureuse et connaisseuse de l'œuvre, presque par cœur, de l'œuvre de Proust. Vous avez été la secrétaire générale de la Société des Amis de Proust de 1987 à 1999. Vous avez écrit Proust, la cuisine retrouvée aux éditions du Chêne il y a plus de 30 ans, mais ce livre a été réédité en 2009 sous le nom de La cuisine selon Proust. Alors il y a deux aspects qu'on peut aborder ce midi dans le rapport de Proust à la cuisine, c'est précisément le rapport de l'auteur à la bonne chère, et c'est la cuisine évidemment dans la recherche, dans l'œuvre de Proust. Alors commençons par le premier point, on mangeait bien chez les Proust, quand Marcel était un petit garçon, les parents faisaient très attention à ce qu'il mangeait parce qu'il était déjà souffreteux, mais il y avait du beau et du bon en abondance. Est-ce que cela a fait de Marcel Proust un bon mangeur?
Écoutez, c'est vrai qu'il était fragile, donc son régime alimentaire était très surveillé. Et il confesse un péché à son grand-père quand il a 7 ans. Il dit « Je confesse mon péché, j'ai mangé moins qu'à l'ordinaire ». Donc c'est un péché parce qu'il faut qu'il s'alimente beaucoup. Et après, à 15 ans, il est devenu un glouton. Il cite des menus gargantuesques dans une, pour montrer comme il se porte bien. Quand il est en vacances, et il écrit à sa grand-mère qui est à Paris. Et voilà. Il énumère des choses formidables. Et puis, dans un questionnaire, ces fameux questionnaires, il y en a 4, on le sait maintenant. Quand il a 16 ans, et une des questions est « Quel est votre pire souvenir ?» Et il dit « Pire moment ?» Et il dit « Celui de ma plus forte indigestion. » Ah donc il est un mangeur, gastronome, c'est pas sûr, parce que quand, à la question « Quel est votre mets préféré ?»« Celui qu'on me présente quand j'ai faim.
Hein » Quoi ?
Donc, il est ni gourmet, comme le commande Jean-Yves Tadier dans son présentation du questionnaire, et il est ni gourmet, ni gastronome.
Mais mangeur insatiable.
Mais mangeur insatiable, et c'est ainsi qu'il se décrit dans la lettre à sa grand-mère.
Anne Borel, il y a une femme qui a beaucoup compté pour lui. C'est la cuisinière de son enfance, Félicie, qui a d'ailleurs inspiré le personnage de la cuisinière dans l'œuvre de Proust, de Françoise.
Alors, Françoise, elle est le personnage qui apparaît dans Combray, c'est-à-dire dans l'enfance du narrateur, héros aussi. Et il y a effectivement cette Françoise qui est un personnage composite, c'est trois personnes. On a la photographie à Illier dans la cuisine d'une personne qui s'appelle Ernestine Galou, qui est supposée être la cuisinière. Et il y a ce personnage de, c'est une personne et un personnage, Félicie, qui est dans Jean Santeuil, fait comme Félicie, et dans la réalité, Félicie Fitot. Et c'est elle qui a transmis à Céline Cottin, qui lui a succédé au service de la famille Proust, la recette du fameux bœuf mode. Et elle est tellement importante pour Proust, et on le sait tellement que depuis le début d'ailleurs, il écrit « Comparez mon livre au bœuf de Françoise » et il envoie une lettre à Félicie en 1909,
à Céline,
« Céline, vif compliment pour votre merveilleux bœuf mode. Je voudrais bien réussir aussi bien que vous. » Ce que je vais faire cette nuit, il écrit la nuit bien sûr, que mon style soit aussi brillant, aussi clair, aussi solide que votre gelée, que mes idées soient aussi savoureuses que vos carottes et aussi nourrissantes et fraîches que votre viande. En attendant d'avoir terminé mon œuvre, je vous félicite de la vôtre. Et alors, c'est pas étonnant que dans le début de La recherche du temps perdu, on voit établir l'équivalent entre l'écrivain et le cuisinier.
Et c'est ça, c'est-à-dire que Françoise est une artiste, il la compare à Michel-Ange, Françoise dans l'œuvre, et sa cuisine est la métaphore de la création littéraire.
Oui, c'est très raccourci, mais c'est ça, tout à fait. tout à fait, parce que ça, en fait, ça prend, c'est un fil rouge qu'on suit depuis l'écrivain, enfin le futur écrivain. Je me laissais aller avec délice au goût que j'avais pour les phrases de Bergotte, les phrases de son écrivain favori. Comme un cuisinier, et tout le début de la métaphore est là, je suis, futur écrivain, comme un cuisinier, et je déguste les phrases. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il mange, et donc qu'est-ce qu'il va donner à manger? Ce sont des mots, ce sont des phrases, c'est du style. C'est ce qu'il dit à Céline. Et la comparaison dans la réalité est extraordinaire, parce qu'en fait, il va suivre, en tant qu'apprenti, Françoise, la cuisinière totale, qui va devenir l'artiste de la création. C'est la manière dont il désigne Michel-Ange. Et on va le voir apparaître avec son chef-d'œuvre. Enfin, toute la métaphore apparaît dans l'apothéose du bœuf mode.
C'est ça, le bœuf mode angelé. Alors, c'est quoi la recette, Anne Borel, du bœuf mode angelé?
Alors, depuis la veille, Françoise allait elle-même au hall se faire donner les plus beaux morceaux de rump steak, de jarret de bœuf, de pied de veau, comme Michel-Ange, choisissant dans les carrières de Carrare les plus beaux blocs de marbre pour le tombeau de Jules II.
Voilà, qui est moins résumé que ce que j'ai fait tout à l'heure.
Oui, et ma mère craignait que notre vieille servante ne tombât malade de surmenage, comme Michel-Ange dans les carrières de Pietrasanta. Et le bœuf froid aux carottes fit son apparition, couché par le Michel-Ange de notre cuisine, sur d'énormes cristaux de gelée semblables à des blocs de quartz transparents. Mais enfin, lui demanda ma mère, comment se fait-il qu'on ne trouve pas, et c'est là qu'on va peut-être avoir la recette, qu'on ne trouve pas chez les grands restaurateurs une daube aussi parfaite où la viande a pris le parfum des carottes. Alors, elle n'était peut-être pas aussi désireuse ou ne voulait pas donner la recette, enfin, pas plus qu'une grande élégante pour ses toilettes ou une grande cantatrice pour son chant. Leurs explications ne nous disent pas grand-chose. Mais en fait, elle va le dire, son secret, mais elle va le dire à l'envers. Elle va le dire à l'envers. En parlant des grands restaurateurs, elle dit « Ils font cuire trop à la va-vite, et puis pas tout ensemble. Il faut que la viande, elle devienne comme une éponge, et que le bœuf, il ait bu tout le jus jusqu'au fond. » Et si vous retournez la proposition « Ils font cuire trop à la va-vite », vous voyez le défaut de fabrication des autres grands restaurateurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il leur manque? S'ils vont trop vite, qu'est-ce qu'il manque? L'ingrédient principal.
Le temps.
Le temps. Longtemps, je me suis couché de bonne heure, les premiers mots. Dans le temps, dernier mot, à la recherche du temps perdu. Et voilà, tout le secret de la création est là.
Il y a aussi une géographie, Anne Borel, du rapport de Proust à la table des lieux où il aimait aller manger. C'est à Combray, par exemple, dans la maison de tante Léonie, que Proust fait advenir ses souvenirs culinaires. On verra ça tout à l'heure après la Madeleine. Mais c'est aussi Paris, Trouville, Cabourg, qui s'appelle Balbec, dans l'œuvre. Dans À la table de Proust, un livre qui apparu récemment aux éditions des Falaises, on assiste à une promenade gourmande sur les pas de Proust. C'est aussi un livre de recettes proustiennes recréé par des chefs, par exemple au Grand Hôtel de Cabourg, donc Balbec, où a résidé tous les étés Proust de 1907 à 1914. On voit l'importance de la sole terre et mer que mangeait Proust. Voilà, les mets suivent les lieux où a habité, où est passé Proust.
Oui, certainement. Il est très sensible, Proust est très sensible à tout. Et tout peut se transformer en art. Et la recherche de la vérité, c'est la recherche de l'art. C'est l'art, c'est la création. C'est la Madeleine qui dit « je suis un chercheur ». Et dans la cuisine, en suivant Françoise, elle avait la certitude du créateur. Moi, j'avais l'incertitude du chercheur. Enfin, il est chercheur et c'est la vérité, c'est l'art.
Est-ce que malgré tout, il y a des livres, Anne Borel, de la recherche où on trouve plus de recettes que d'autres?
On peut faire...
Est-ce qu'il cherche l'art plus au début et puis finalement, ça y est, il la trouve au fur et à mesure?
On peut faire un Proust pratique en combinant des tas de plats qui sont nommés. On mange des mots, hein, c'est évocateur, et on peut faire les recettes avec. Proust pratique, c'est tout à fait adaptable, effectivement. Même la géographie, de même la peinture, de même, etc. Mais Proust pratique, des menus, des recettes, on peut en faire tant qu'on veut avec les mots de Proust, comme on a fait souvent dans les livres de cuisine.
Alors, on parlera de Combray tout à l'heure, mais arrêtons-nous un temps sur Paris, puisque Paris, Marcel Proust y a résidé, il privilégiait la salade russe de chez Larue, le rouget de chez Prunier, la sole donc cuisinier au Ritz, dont Marcel Proust avait fait sa deuxième maison. Il y recevait d'ailleurs des personnalités dans un petit salon au décor raffiné. Un seul exemple, le 1er juillet 1907, il convie à dîner Gaston Calmette, le directeur du Figaro, admirateur de l'écrivain, Gabriel Fauré, son musicien préféré, Anna de Noailles, l'éclair Montonnerre, Henri Béraud, l'écrivain, et d'autres membres de la Café Society du Ritz. Menu, recettes d'Auguste Escoffier, chef prestigieux du Palace en 1900, caviar et champagne Cliquot et Krug, consommé Viveni, mousseline de sole au vin du Rhin, que d'écrevisses à l'américaine, escalope de riz de veau favorite, perdreau truffé salade, asperges vertes en branche, coupe au marron, friandise. Et bien, juste retour, le Palace a dédié un salon Proust à l'écrivain, devenu une référence à l'heure du thé. Nous sommes avec son chef pâtissier, François Perret. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Dites-nous à quoi ressemble le salon Proust du Ritz.
Le salon Proust, c'est déjà un lieu très feutré, mais en même temps plein de boiseries tout autour, où on y retrouve aussi une cheminée qui fonctionne, la seule de l'hôtel d'ailleurs, avec une table au centre où on met justement toutes les gourmandises, toutes les biscuiteries qu'on fait pour ce lieu. Quand je suis arrivé en 2015 pour la réouverture de l'hôtel et que j'ai découvert ce lieu sur plan, ainsi que le nom du lieu, je me suis dit qu'on pouvait pas faire un thé à l'anglaise dans un lieu comme celui-ci. Et c'est pour ça que j'ai proposé un thé à la française. L'idée étant de se réapproprier un petit peu toute cette biscuiterie qu'on a tous connue, qui a un petit peu disparu aujourd'hui de l'artisanat. Et l'idée, c'était de se la réapproprier pour essayer de la retranscrire avec des ingrédients bien choisis, parce que je trouvais que c'était parfait pour accompagner un thé, finalement. Voilà.
Qu'est-ce qu'un thé à la française? C'est un thé avec des biscuits nécessairement français?
Et voilà, exactement. Un thé à la française, l'idée, c'était de... Déjà, on n'a pas de salé. Donc, on n'a pas les finger sandwich, on n'a pas les scones. Et on a uniquement de la biscuiterie. Donc, on va avoir des spritz, des florentins, on va avoir des petites tatins, on va avoir des madeleines, forcément, on va avoir des allumettes, on va avoir des pailles à la framboise. Que de la biscuiterie sèche. L'idée, c'était un petit peu cette boîte de biscuits qu'on a tous connue.
Alors, il y a une madeleine, nous dit François Perret. Merci beaucoup, François Perret. Une madeleine, Anne Borel, nécessairement, dit-il, de façon évidente. Qu'est-ce qu'il aimait au Ritz? Le côté feutré dont parlait François Perret? Le côté rassurant?
Certainement, il avait certaines facilités d'isolement, mais aussi de réception. C'était pas sa maison, en fait. Non, faut pas exagérer, hein, quand même. Il avait quelques habitudes avec, il connaissait bien le chef, le maître d'hôtel, Olivier de Besca, qui lui racontait les potins, et bon. Mais bon, c'est le Proust du Riste, le Proust du Riste en, pardon, le Proust du Ritz. On va faire un exercice de diction. On se demande pour qui est la réclame, si c'est pour le Ritz ou si c'est pour Proust.
Ne le dites plus. Dites le Palace parisien, si vous voulez.
Le Proust du Ritz.
Alors, en même temps, plus la maladie le fait souffrir, Anne Borel, moins Proust mange. Sa gouvernante, Céleste Albaret, parle de lui comme d'un gourmand de souvenirs.
C'est ces souvenirs
que nous allons voir en deuxième partie.
Ce que vous disiez à propos de la géographie, c'est la même chose. Il demande une salle à Céleste Albaret, il demande une petite marmite, et puis il la renvoie. En fait, ce qu'il cherche, c'est le goût de son souvenir, comme pour la madeleine. La madeleine, c'est le goût du souvenir. C'est pas quelque chose d'autre, individuel.
Que nous parlons trop. Que nous oublions de manger.
C'est vrai, ça nous oublions trop souvent de manger, nous parlons trop. Matteo Carantin, alors cette Madeleine, bonjour Matteo.
Bonjour Caroline, bien Madeleine particulière pour émission particulière, vous le disiez aujourd'hui, puisque c'est justement de ce truchement narratif qu'utilise Marcel Proust pour plonger en enfance qui nous inspire dans cette séquence. Et c'est la réalisatrice et actrice Valérie Donzelli qui nous en fait cadeau aujourd'hui. Valérie Donzelli qui signe une série fantasque diffusée sur Arte, Nona et ses filles, qui raconte avec beaucoup d'humour l'histoire improbable d'une septuagénaire qui annonce à ses filles triplettes qu'elle est enceinte, l'occasion pour ces quatre femmes de se retrouver et de questionner leur histoire et leur mémoire. Mais revenons à la mémoire involontaire de la Madeleine, puisque Madeleine particulière, la Madeleine de Valérie Donzelli, se trouve être une Madeleine.
Ma Madeleine, c'est une Madeleine. Pas n'importe laquelle, c'est la Madeleine de Commercy, fabriquée à Commercy, celle qu'on vend dans les petites boîtes en bois, emballée individuellement dans des petits sachets plastiques. Et c'est ma Madeleine de Commercy parce que c'est là où j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais enfant, en Lorraine, et on allait toujours acheter des madeleines. Et on achetait même les madeleines qui étaient... on en ramenait des sacs. Alors, on achetait les madeleines premier prix qui étaient... première classe, on va dire, qui étaient les plus chères pour les offrir. Et puis sinon, pour le petit déjeuner ou pour la vie de tous les jours à l'école et tout, elle achetait des madeleines dans des sachets en plastique qui étaient des madeleines qui avaient des défauts. Donc, qui n'étaient pas très belles, qui étaient un peu cassées et tout ça. Et ça s'achetait beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, c'était un peu notre pain quotidien, ces madeleines-là. Elles sont emballées d'abord dans un petit sachet plastique et ensuite elles sont emballées, elles sont rangées dans une boîte en bois. D'abord il y a ce bruit du petit plastique qu'on ouvre comme ça, comme un emballage de bonbons un peu. Et puis il y a cette madeleine qui a une forme assez parfaite, un peu de petit bateau avec la bosse au-dessus qui est sur le fond marron foncé et au-dessus plutôt marron orange, enfin jaune orangé. Avec la petite tête qui dépasse, comme ça, comme une religieuse. Et d'ailleurs, souvent, on aime la manger par la tête. Donc, on croque d'abord la tête, et puis après, on mange tout le reste. Et c'est vrai qu'elles sont un peu sèches. Donc, on adorait, par exemple, les tremper dans le lait ou les tremper dans le thé, parce que ça la ramollissait un peu, alors qu'une vraie madeleine que j'achète comme ça, un peu plus beurrée et tout, chez le boulanger, on n'a pas forcément envie de la tremper dans le thé ou le café. Là, celle-ci, oui, ça nécessitait un peu ça. C'était un peu presque un biscuit sec, quoi. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'adore manger des madeleines, mais je ne trouve pas que les madeleines de Commercy, ce soient vraiment les meilleures. J'ai l'impression qu'elles manquaient un peu de beurre, quand même. Moi, j'aime bien quand la pâtisserie est très beurrée et tout. Et c'est vrai que j'en ai mangé des meilleures madeleines dans d'autres pâtisseries, mais ça, je ne sais pas s'il faut le dire. Mais en tout cas, la madeleine de Commercy, cette petite boîte avec sa madeleine à l'intérieur et tout, c'est vraiment le souvenir de mon enfance.
Voilà la Madeleine de Valérie Donzelli. Un grand merci Matteo Carantin. Anne Borel, vous avez écouté ce souvenir gustatif de Valérie Donzelli. Alors la Madeleine de Commercy dont elle parle, est-elle proche de la Madeleine de Proust? Première classe ou premier prix?
Ça n'a absolument rien à voir parce que la Madeleine de Proust, c'est la Madeleine de Marcel Proust. Et pour d'autres, d'ailleurs, c'est pas même pas la Madeleine, c'est... Le schéma de la Madeleine, en fait, construit dans les manuscrits, dans des autres textes précédents, le schéma est toujours le même. Un soir d'hiver, je rentre chez moi, découragée, et mon grand-père, ma grand-mère, ma vieille servante, ma mère, me propose un peu de thé dont je ne prends jamais. Quand on m'en habitue, j'accepte, et je trempe dans ce breuvage une tranche de pain grillé, une biscotte, selon les textes, et puis une Madeleine. L'extraordinaire astuce de Proust, quand il arrive à la Madeleine, par rapport aux tranches de pain grillé et biscotte, c'est qu'il passe d'un objet plat et sec à ce petit gâteau court et dodu, à la robe si grassement sensuelle sous son plissage sévère et dévot, et qui semblait moulé dans la valve rainurée d'une coquille de Saint-Jacques. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a la forme. Il a le goûtant, il y a le beurré dans les mots. Vous la mangez, cette phrase, formidable. Mais surtout, il arrive à la coquille de Saint-Jacques. C'est-à-dire qu'il fait une espèce de mélange, une crème, entre la réalité d'Hillier Combray, qui s'appelle Hillier Combray maintenant depuis 1971, mais d'Hillier, la réalité d'Hillier, et le roman. Il fait advenir l'église Saint-Jacques, d'Hillier, qui s'appelle Saint-Jacques dans la réalité, dans le roman, avec la coquille de Saint-Jacques qui est présente sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. L'église d'Illiers a des grosses coquilles de Saint-Jacques renversées. C'est formidable. La réalité arrive et Saint-Hilaire, qui est le nom de l'église de Combray, est présent dans Combray autrement. Dans la réalité, l'église s'appelle Saint-Hilaire. Il y a la rue Saint-Hilaire, le pont Saint-Hilaire, etc. Donc il y a Saint-Hilaire qui est l'église détruite d'Illiers qui est Saint-Jacques, avec la coquille de Saint-Jacques présente au maître-autel, et l'église Saint-Hilaire qui est détruite à Illiers, qui existe, mais qui est présente sous le nom de la rue Saint-Hilaire, etc.
Alors il a fait donc cette allée entre la réalité et la fiction. On va faire un retour, si vous le voulez bien, Anne Borel, de l'œuvre à la réalité, avec une passionnée de Proust. Vous n'êtes pas la seule, il y en a une autre.
Je ne suis pas passionnée de Proust.
Ah bon?
Non, j'ai le détachement, j'espère, l'esprit critique nécessaire.
Mais on peut être passionné, avoir un esprit critique.
Pour être efficace.
Elle est designer culinaire et elle vit dans un moulin près d'Illiers-Combray, précisément. Maxime Beuchet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour à tous et à toutes sur le plateau.
Alors vous êtes lancé à corps perdu, j'ai envie de dire, à la recherche du goût perdu, c'est-à-dire du vrai goût de la Madeleine de Proust, qui est le goût de l'enfance. Alors comment fait-on pour trouver le goût de l'enfance, le goût de la Madeleine? Vous l'avez trouvé?
C'est une très bonne question parce que en réalité, effectivement, dans le texte de Proust, en aucun cas il y a une recette. Parce que souvent on me dit, mais quelle est la recette? Est-ce que c'est la vraie recette de la Madeleine de Proust? Et il n'y en a pas, puisque c'est propre à chacun. Cette Madeleine de Proust qu'il décrit laisse le lecteur ses souvenirs d'enfance. Donc nous, la grosse difficulté avec Camille Lessec, qui était à l'époque le chef pâtissier de l'hôtel du Palace Meurice, c'était de concevoir et de transformer cet extrait des mots de Marcel Proust en saveur. Donc effectivement, quelle est la saveur de l'enfance? Quelle est la flagrance régressive que l'on pouvait utiliser pour évoquer ce doux parfum de l'enfance? Donc on est bien sûr parti sur la vanille. La vanille qui est l'expression même du parfum de l'enfance. On l'a travaillé de façon à ce que cette vanille ne soit pas forcément directement exprimée, mais soit intentionnelle. C'est-à-dire qu'elle ne soit pas forcément mise en avant, mais qu'elle soit sublimée par la recette qu'a réalisée Camille Lessec, mais qu'en aucun cas ne soit trop prononcée. Donc, c'est une vanille bourbon de Madagascar, donc de très très belle qualité, qui est effectivement dans cette recette. On y a été attaché, je pense que le résultat est concluant. Vous voyez, il y avait quelque chose d'intime qui se passait exactement comme dans le texte de Marcel Proust. Il parle de petite Madeleine avec un P et un M majuscule, qui est donc vraiment la signature de Marcel Proust, du petit Marcel. Donc ça, c'est très très important, et c'est cette intimité propre à cette découverte, à cette émotion extraordinaire du souvenir, que je voulais absolument retrouver dans cette recette. Voilà,
Maxime,
cette Madeleine de Proust.
Maxime Beuchet, vous avez parlé du goût, il y a aussi la forme.
Oui.
Et Anne Borel, de tête, nous a dit le texte de Proust concernant cette forme rainurée comme une coquille de Saint-Jacques, le gâteau court et dodu, vous vous dites « petite Madeleine ». Alors, est-ce que vous avez aussi cherché à reproduire la forme de cette Madeleine proustienne?
Elle est extrêmement importante. Je crois que Anne a parfaitement bien souligné. La forme de coquille de Saint-Jacques est propre à la Madeleine de Proust. Et pour moi, de ma part, moi, en tant que designer effectivement culinaire, il fallait que je retrouve cette Madeleine en forme de coquille Saint-Jacques. Donc, ça a été une des grandes difficultés, je dirais, de l'aventure. J'ai rencontré dans toutes ces démarches que j'avais, j'ai rencontré une personne qui était collectionnaire et qui avait à peu près 6000 moules dans son grenier, et il m'a suggéré 6000 moules de Madeleine. Hein. Donc il m'a suggéré de venir et de chercher. Donc j'ai cherché pendant effectivement tout un week-end à soulever des matrices extrêmement lourdes, et je suis tombée sur une petite série de matrices, puisqu'il y avait deux, en forme de coquille de Saint-Jacques, et c'était des très grosses madeleines. Parce que, et donc de cet état de fait, de voir que effectivement une madeleine pouvait peser 200 grammes, voire 100 grammes, parce que j'avais ces deux matrices. J'ai essayé de comprendre pourquoi, en 1864, puisque les moules d'étaient de cette époque-là, il y avait ces gâteaux qui étaient finalement très imposants par rapport au grammage que nous, on a aujourd'hui, qui est plutôt des petites madeleines.
Mais donc vous avez fini par faire une madeleine en forme de coquille Saint-Jacques, avec, elle est rainurée, votre madeleine, comme dans le texte.
Exactement la même. J'ai pris vraiment Proust à la lettre pour concrétiser et faire cette madeleine. Donc c'est vraiment, je dirais, j'ai pu réaliser cet ensemble finalement de cette madeleine, de cette recette et de cette forme qui est absolument magique.
Merci beaucoup, Maxime Beucher, de ce témoignage à propos de la madeleine de Proust et du goût de la madeleine de Proust que vous avez recréée. Anne Borel, juste pour finir, la madeleine, elle n'est pas bossée, du coup, elle n'a pas de bosse, cette madeleine, dans le texte. Elle est plate.
Ce n'est pas précisé.
C'est dans votre imaginaire à vous.
Ce qui compte, mais vous savez, chacun a sa madeleine qui n'est pas forcément liée à un goût. L'odeur et la saveur restent parfois longtemps comme des âmes, comme des êtres, à se souvenir, à porter sur leur gouttelette presque impalpable l'édifice immense du souvenir. C'est comme ça que tout Combray est sorti de ma tasse de thé. L'odeur et la saveur, pour Proust, c'est ça qui est important. Et j'ai raconté la madeleine au chauffeur de taxi qui m'amenait. Et il m'a aussitôt sorti sa propre madeleine, qui était tout autre chose, dans les montagnes d'Iran, où le berger met un petit quelque chose dans du lait, et il mange ce yaourt, et c'est ça sa madeleine, il avait tout compris. Vous voyez, l'odeur et la saveur.
Un immense merci, Anne Borel, d'être venue ce midi nous parler de Proust et la cuisine, la table de Proust. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Les bonnes choses s'écoutent aussi quand vous le voulez sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Avec l'équipe Roxane Poulin, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, June Lopère à la réalisation et notre technicienne du jour Marie-Claire Oumabadi. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal, suivi de Signes des temps par Marc Weitzmann.